ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. לעבד רקונטר יצחק toutes les choses qu'il avait faites. Alors, Asher Asa, c'est un peu compliqué. Qui est-ce qui a fait? C'est qui le sujet, là? A priori, c'est Hachem qui a fait les choses. Parce qu'est-ce qu'il lui raconte? Il lui raconte qu'il a eu Kfitsat Haderech. On va tout de suite en parler, mais c'est pas lui qui a fait la Kfitsat Haderech. Pas lui qui a eu cette contraction de du temps pour qu'il a fait en un jour le trajet depuis chez Abraham jusque chez Laban. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dans la traduction en français, ils ont traduit le serviteur narra à Yitzhak tout ce que Hachem avait fait. Mais dans le verset, c'est pas, il y a pas le nom d'Hachem. Quand la chair à ça, grammaticalement, ce qui est écrit dans le verset, c'est le Eliezer raconte à Yitzhak tout ce que lui, Eliezer, avait fait. Rashi l'a traduit. Gila lo nisim shena sulo. Il a dévoilé à Yitzhak les miracles qui lui ont été faits. Mais kolacher à ça, c'est a priori, c'est pas ça, c'est un peu étrange que le verset présente les choses comme si Eliezer racontait ce qu'il avait fait. Racontez ce qui vous est arrivé en disant ce que j'ai fait. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Est-ce que ça fait un peu sens ou quoi? Bon, alors pour l'instant, on laisse ça en question. Alors, le Midrash dit, Amar Rabbi Elazar, Klalea shel Torah, Merubim mipratea. Sheilu va lichtov, as shnaim ushlosha dapim maya kotev. Rabbi Elazar, il dit quelque chose. Il dit, je prends la dernière partie de la phrase, que si on avait écrit en détail de nouveau ici, alors on aurait besoin de deux ou trois pages. Et en tout et pour tout ici, on a mis trois mots. Dvarim asher asa. Quatre mots. Kol advarim asher asa. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? C'est-à-dire que si nous on avait rédigé, on aurait plutôt dit que la Torah, elle nous raconte ce qui se passe avec Eliezer en temps réel, et ensuite seulement, et il n'a pas besoin de tout raconter à Bethuel et à Lavan. Voilà, Votre fille a des qualités qui conviennent pour mon maître. Est-ce que vous êtes d'accord de me la donner ? Et par contre, quand il arrive chez Yitzhak, il va lui raconter en grand détail ce qui s'est passé. Bon, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est chez Lavan et chez Bethuel et Lavan que Eliezer raconte encore une fois, enfin, il raconte tout ce que la Torah nous a déjà raconté en temps réel. Et quand il arrive chez Yitzhak, le texte nous dit que il lui racontait tout ce qu'il a, disons comme ça, sans entrer dans le détail, tout ce qui s'est passé. Et alors, Rabbi Elazar, il dit là-dessus quelque chose de presque incompréhensible. Regardez ce qu'il dit. Il dit « Klalea shel Torah », a priori « Klalea shel Torah », ça veut dire un klal, c'est-à-dire c'est un principe général de la Torah, « Merubim mipratea ». Merubim, ça veut dire a priori « plus nombreux ». C'est exactement le contraire, non? Les klalim de la Torah, le fait qu'ils sont des klalim, ils sont justement moins nombreux que les pratim. Mais si c'est pour dire que les pratim sont plus nombreux que les klalim, c'est une trivialité. On n'a pas besoin de Rabbi Elazar pour le savoir. C'est pour ça qu'on fait des klalim. On fait des klalim pour ne pas avoir besoin de faire la liste complète des pratim. Mais là, il dit exactement le contraire. Ils sont merubim. Dans la traduction française, merubim, qui visiblement veut dire plus nombreux, ils l'ont traduit, ils sont plus gros. Ils sont plus gros. Bon, évidemment, c'est vrai que c'est le propre des klalim d'être plus gros que les pratim. Et du coup, c'est complètement trivial. On n'a pas besoin du Midrash Rabba pour nous dire que les klalim sont plus gros que les pratim. En plus, c'est pas ce qui est écrit, donc c'est écrit merubim. Merubim, ça ne veut pas dire a priori plus gros. Ça veut dire plus nombreux. Il dit, si on avait voulu les écrire, on aurait besoin. Mais c'est ça, justement. C'est pour éviter d'écrire des pratim qu'on a écrit des klalim. Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez quelque chose dans ce texte-là? J'avoue que je comprends a priori rien. A priori, je ne comprends rien de ce qu'il raconte là. Ensuite, quand on raconte tout ce qui s'est passé, alors, tout ce qui s'est passé, ça peut être ou bien in extenso tout ce qui s'est passé, ou bien on raconte tout ce qui est vraiment important de ce qui s'est passé. Alors ça, c'est l'opinion des Rabbanan. D'accord, Rabbanan Amré dit vrai, Shebar Gilalo. Il a dit les choses qui sont dignes de louange, enfin, des choses qui sont impressionnantes. Qu'est-ce qu'il leur a raconté? Kvitzatadereh. Alors, on peut dire que Kvitzatadereh, c'est la première chose qu'il a vécue, Eliezer, qui lui a donné à comprendre qu'il était en train de se passer quelque chose d'énorme. Alors, effectivement, on a dit la première chose, vous imaginez qu'il a dit les autres aussi, mais il a commencé tout de suite par dire que Kvitzatadereh, ça veut dire qu'il y avait un problème de distance, il a été réglé. Un problème de temps. On était en dehors du temps, en dehors de l'espace. On s'est retrouvé tout de suite en situation. Donc ça, c'est ce que Eliezer a raconté à Yitzhak. Il lui a rien dit sur la fille. Il lui a pas. On se serait attendu à ce qu'il dise justement ce qui s'est passé avec ce qui s'est passé au puits, par exemple. Le test qu'il lui a fait passer, qu'elle a passé brillamment. Mais il n'y a pas un mot sur la fille en question, sur Rivka. Et peut-être que Eliezer. Il s'est pas senti devoir dire quoi que ce soit à Yitzhak concernant son épouse. Il pense qu'il va le voir lui-même. Ce sera à lui de juger. Il n'a pas besoin que je fasse moi son éloge. Ou alors c'est inclus dans le récit qu'il a fait des choses extraordinaires. Mais tout ce midrash est un peu étonnant. Alors, on peut essayer de comprendre les choses de la manière suivante. En se tenant vraiment au texte. Quand on a une liste d'éléments qu'on appelle des pratim, et qu'on dit un klal. Le klal, en fait, il contient plus que ces pratim. Parce que, du coup, les pratim sont des exemples de ce qu'il y a dans le klal. Mais ça ne dit pas tout ce qu'il y a dans le klal. Et c'est ça qu'il veut dire. Qu'en réalité, Le klal est plus émeroubé, mais à pratim. Le klal contient bien plus que la somme des pratim. Parce que cette règle générale, comme un principe général, si vous voulez ensuite, quand vous avez une liste de pratim et vous avez un principe général, le principe général est beaucoup plus englobant. Il n'englobe pas seulement les pratim qui sont énoncés, mais il dit, justement, c'est ça qu'on... Passer à un klal, c'est pas simplement résumer les pratim. C'est dire un principe général dont les pratim découlent éventuellement. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Elazar dit, il a dit, la Torah a pas voulu entrer dans le détail. Justement, il a dit un klal. La Torah nous dit qu'il lui a dit un klal, ça veut dire que il a dit beaucoup plus que ça. Et c'est-à-dire que quand on dit que si on l'avait écrit, ça aurait pris 2-3 pages, c'est si on l'avait écrit, ça aurait été ce qui est dans le klal, c'est beaucoup plus que ce que Eliezer a dit. Quand Eliezer raconte il donne des éléments. Le klal englobe bien plus que ça. C'est-à-dire que il y a des éléments qui n'ont pas été dits par Eliezer dans le détail. Même s'il a dit les choses très en détail, il n'a pas tout dit. Il n'y a pas des éléments pourquoi tout à coup c'est. Il a compris aussi, par exemple, comme on l'a dit, comment se fait-il qu'elle soit justement sortie, elle. On avait vu dans les Midrashim qu'elle n'avait pas l'habitude, Rivka, d'amener les troupeaux, etc. Ça, il ne l'a pas raconté à Betuel à Lavan. Il le savait, mais il n'a pas. Mais dans la liste des choses extraordinaires qui se sont passées dans cette affaire, il y avait une sorte d'éléments, des éléments plus nombreux que ceux que Eliezer a racontés. Donc, il faut prendre le texte tel qu'il est, les klalim sont merubim, la pratim, c'est-à-dire il y a dans le klal, il y a beaucoup plus que la liste des pratim. La liste des pratim, c'est seulement, ce sont seulement des exemples de ce qui, de tout ce qu'on peut tirer du, de la règle générale. C'est ça qu'il a voulu dire. C'est-à-dire qu'en fait, la Torah n'a pas voulu nous l'écrire, mais Eliezer, il a donné tout ça. Il a donné tous les détails à Yitzhak. Et il y a les rabbins qui disent non. Ici, ce qu'on veut nous dire, en nous disant une kolacher à ça, alors, peut-être il faut entendre kolacher à ça, et il ne va même pas dire kolacher à ça Hachem. Mais kolacher à ça. À Yitzhak, il n'a pas besoin de lui dire qui a fait les choses. Bon, voilà. Il ne dit pas que je ne vais pas lui dire c'est moi qui l'ai fait, ça n'a pas de sens. Donc ça veut vraiment dire Hachem, mais il n'a pas besoin de le dire parce qu'on n'a pas besoin d'énumérer comme c'est un klal, comme dans le klal. C'est inclus dans le klal. Je te raconte tout ce qu'il a fait. C'est le il en question, tu sais bien qui, tu sais bien qui a agi pour toi ici. C'est ça probablement que veut dire Rabbi Elazar et les Rabbanan.
Rab,
vous m'entendez? Oui, je vous entends.
Ouais. Moi, je suis un peu embêté avec cette. Cette exégèse-là, enfin, je ne sais pas comment l'appeler. Parce que moi, personnellement, si je lis le texte, je ne vois pas comment on peut sortir quelque chose comme ça avec Klal, Pratim. Il dit tout ce qu'il colat varim, cher à ça. Comment puisque le Midrash était a priori un commentaire sur le texte du Chumash, comment on peut ici se dire ah oui ça voilà, il dit des klalim sur ce qui s'est passé, il parle pas de pratim dans les détails, vraiment je comment dans ces cas là
c'est pour ça que vous avez le Midrash.
Oui,
le
mais
Midrash il est là
mais oui,
pour
mais...
dire ce que vous auriez pas dit.
Mais oui, d'accord, mais même quand... D'accord, ben oui, bien sûr, ça je peux très bien le comprendre. Et il nous aide certainement dans de nombreux cas, mais là, même le Midrash, on se pose la question...
Qu'est-ce que vous entendez? La phrase, elle veut rien, elle dit rien du tout. C'est sa père à Evel et Yitzhak et Kolan Sherasa. On n'en a pas besoin de ça. On s'imagine bien que Eliezer a fait un rapport à Yitzhak sur ce qui s'est passé.
Oui, mais...
Imaginez pas qu'il revient d'un voyage où il a choisi une éventuelle kala pour lui et il lui dit rien et lui dire qu'il a nous dire qu'il lui a dit quelque chose. On n'a pas besoin de le dire. Évidemment qu'il lui a dit les choses. Seulement le Midrash, il a été attentif au fait que à cet endroit-là, on aurait pu imaginer que la Torah nous raconte de nouveau tout ce que Eliezer avait déjà raconté. Mais justement, l'idée, c'est que la Torah, maintenant, elle nous enseigne quelque chose. Elle nous enseigne qu'en réalité, il lui a dit, il lui a donné un klal, et tout ce qu'il lui a... La Torah, elle l'écrit comme ça. C'est la Torah qui décide de le formuler, de le présenter comme étant un klal, plutôt que des pratim. Parce que ce que fait Eliezer quand il raconte, ce ne sont jamais que des pratiques.
D'accord.
Et donc, ce qu'on veut nous dire justement là, c'est qu'Eliezer, il a dit beaucoup plus à Yitzhak que ce qu'il a raconté à Betuel et à Lavan. Comment il lui a dit beaucoup plus? Où est-ce qu'on voit que c'est beaucoup plus? C'est que la Torah, elle n'est pas entrée justement dans les détails. La Torah, elle n'a pas voulu faire l'énumération. Elle a pris une formulation qui vous permet d'en dire beaucoup plus de façon complètement compacte. Elle ne nous dit pas, nous ne savons pas ce qu'Eliezer a raconté. Mais tu peux être tranquille qu'il lui racontait tout ce qu'on pouvait raconter. Quand la chair a ça, tout, vraiment tout. Les pratimes, ce n'est pas tout. Oui. C'est ça qu'il vient lui dire. C'est ça qu'on vient nous dire. La Torah, quand elle l'a formulé de cette manière-là, en disant « Kol Hasher Asa », un klal, d'accord, elle a, pourquoi elle l'a mis sous cette forme-là, dit le Midrash? Parce que nous, on se serait attendu, encore une fois, à ce qu'Eliezer recommence son laïus, là, et qu'il raconte la liste de ce qu'il a raconté, déjà à Betuel. Pas du tout. Ça, c'est pas ça qu'on raconte à Yitzhak. Ce qu'il a raconté à Betuel, c'est une liste de faits. Voilà, son ressenti éventuellement, etc. Mais maintenant, ce qu'il faut raconter vraiment à Yitzhak, c'est tout. Tout, absolument tout. Le journal complet, le journal de laboratoire d'Eliezer. Ça, il ne l'a jamais raconté. Mais c'est ça, il lui a donné son journal de laboratoire. Et Yitzhak savait tout ce qui s'est passé. C'est okay. Ça qu'on veut nous dire.
Okay, mais...
Dans l'idée du tout, il vient nous enseigner, et il lui a donné à Yitzhak beaucoup plus que ce qu'il lui aurait donné en lui faisant l'énoncé, la liste de ce qu'il a déjà raconté.
D'accord, Rav, mais ça serait quand même intéressant que le Midrash nous dise justement quels sont ces klalim qu'il a racontés à Yitzhak. Ça serait quand même intéressant, ça, de savoir si on peut tirer des
klalim. Nous, on peut... Non, mais ça, ça... Je vous dirais presque que ça ne nous regarde pas. C'est pas... C'est ça ne nous regarde pas. C'est... Il a dit à Yitzhak ce que Yitzhak devait savoir concernant sa femme. Quoi. Tout ce qui s'est passé, parce qu'évidemment, tout était significatif. Et pas simplement il y a des points significatifs. Tout était significatif. Tout le temps passé, à la limite, le goût du café qu'ils lui ont servi, etc. Tout ça, c'était important. Tout était important dans cette affaire. Et ça, on peut pas le raconter. Il faudrait beaucoup plus de temps. Ça que dit le Midrash, on n'a pas 2-3 pages à raconter. Il en faudrait bien plus. Je crois que c'est la seule chose que je suis capable de comprendre dans ce Midrash. Sinon, je ne comprends rien du tout. Voilà. Ensuite, on arrête le récit du voyage. Rivka est arrivée à bon port. Alors là, on a de nouveau un Midrash un peu difficile. Le Midrash, il est sur le verset. Le verset dit « Vayevia Yitzhak Aoela Sarah Imo » Yitzhak a amené Rivka, donc il l'a amené dans la tente de Sarah, sa mère. Voilà. Et ensuite, Vaikar et Rivka, il a pris Rivka, ça veut dire Vaikar, c'est la chaîne Kiddushin, il a à ce moment-là fait des Kiddushin à Rivka. Vati lo leisha, elle est devenue sa femme. Donc, il y a eu des Nisouin. Ve'avea, il l'a aimé. Vainachem Yitzhak achareimo. Et Yitzhak s'est consolé de sa mère. Alors, bon, il y a beaucoup de choses là. Alors, le Midrash tel que je l'ai, il ne parle que du fait qu'il a amené Rivka dans la tente de Sarah, sa mère. Le Midrash ne dit rien sur la suite. Alors, on va regarder ce qu'il a à dire sur ce verset. Alors, le Midrash nous fait un récit. Kol yamim she'aita Sarah kayemet, du vivant de Sarah, Haya anan kashur al petach haola. Alors, il y avait un nuage accroché à la porte de sa tente. Alors, un petit nuage accroché comme ça. On a déjà vu ça dans la Torah. Cette histoire du nuage, on la connaît du nuage sur le Har Moriah. Quand Avraham Avinu est arrivé en vue du Har Moriah, où il allait faire la Akeda, il a reconnu qu'il était arrivé à bon port, parce qu'il y avait un petit nuage sur ce Mont Moriah. Et vous vous souvenez, il a demandé à Yitzhak s'il le voyait, Yitzhak a dit oui, et il a demandé aux autres, à Ishmael et à Eliezer, est-ce que vous le voyez? Ils ont dit non. Donc ils ont vu ce nuage. Qu'est-ce que représente ce nuage? Le nuage, ensuite, ça va être la fameuse les nuées qui vont accompagner les Bnei Israël dans le désert. Ça veut dire, le nuage, c'est le signe de la présence d'Hachem à cet endroit-là. Hachem réside à cet endroit-là. Et donc, ça veut dire que dans la tente de Sarah, c'était d'une certaine manière une espèce de tabernacle, une espèce de mishkan. C'est la résidence d'Hachem. Quand Sarah est morte, le nuage s'en est allé. Et quand Rivka est arrivée, le nuage est revenu. Donc ça veut dire que Rivka occupe cet endroit-là, parce qu'évidemment, c'est pas l'endroit qui a de la Kdusha, c'est le fait que les hommes, enfin, en l'occurrence ce sont les femmes, que les femmes ici l'occupent. Mais c'est pas n'importe quelle femme, c'est les femmes qui l'occupent à leur manière, avec tout ce qu'elles sont capables de faire, de dire, etc. Et du coup, ça devient une résidence possible pour Hachem. Deuxième chose, tant que Sarah était vivante, alors les portes de la tente étaient grandes ouvertes. Ça correspond à ces fameuses portes dont on parle au sujet de la tente d'Abraham Avinu. Comme vous savez, la tente d'Abraham Avinu, elle était ouverte dans les quatre directions. Ça voulait dire que pour entrer chez Avraham Avinu, on n'avait pas besoin de se présenter d'une manière bien précise. Quand vous allez, si quelqu'un veut arriver chez vous, il doit se présenter. Il y a une entrée, a priori. Donc, s'il arrive par l'autre côté, il faut qu'il fasse le tour de la maison et qu'il se présente de la bonne manière. Sinon, il ne peut pas entrer. Dans la tente d'Abraham, de Sarah, l'hospitalité, c'est ça le signe, l'hospitalité était telle que les gens n'avaient pas besoin de faire le tour. Ils pouvaient entrer d'où qu'ils viennent, avec la fameuse condition qu'il fallait se laver les pieds, c'est-à-dire enlever les traces de l'idolâtrie qui leur collait aux pieds. Et donc, cette tente était une tente ouverte, une tente dans laquelle on pratiquait l'hospitalité à grande échelle. Et quand Rivka est arrivée, ça a été de nouveau possible. Ensuite, ça s'était arrêté, puis c'est revenu. Ensuite, tout le temps que Sarah était vivante, quand Sarah faisait du pain, il y avait une bracha dans le pain. Bracha, ça veut dire augmentation, ça veut dire qu'elle préparait un pain et il y en avait 10. Quand elle est niftéret, même s'il y avait peut-être des servantes qui travaillaient dans cette tente aussi, mais il n'y avait plus cette bracha. Et quand Rivka est arrivée, la bracha est revenue. Du vivant de Sarah, il y avait un air d'Alouk Milele Shabbat, Valele Shabbat. Kivan Shemeta Pasak Oto Aner, Kivan Shebaa Rivka Chazar. Et la dernière chose, c'est qu'il y avait dans la tente de Sarah, il y avait un air qui était d'Alouk, mais Erev Shabbat à Erev Shabbat. Alors, si c'est pour nous dire qu'il y avait que l'électricité était branchée chez Sarah, bon, c'est pas significatif. C'est visiblement que ce qui se passait dans la tente de Sarah, c'est ce qui se passait avec le nerf Maharavi probablement dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire on mettait une quantité de combustible, de l'huile, pour durer un jour. Et ça durait beaucoup plus longtemps. C'était ce qui se passait avec le fameux Ner Marabi. Ce qui a donné un peu, enfin, quelque chose d'analogue avec le Ner qu'on a retrouvé, le Ner de Hanouka. Eh bien, ça existait déjà dans la tente de Sarah. Vraisemblablement, on allumait un Ner Erev Shabbat, qui était donc un air qui était censé brûler pendant Shabbat, et au lieu de ne brûler que pendant Shabbat, et que Motsé Shabbat, il a fallu allumer un nouveau nerf, ce nerf continuait de brûler jusqu'à Erev Shabbat. Erev Shabbat, éventuellement, on l'éteignait, ou il s'éteignait tout seul, et on en allumait un nouveau, l'Ichvot Shabbat. Ça, c'est revenu chez Rivka. Et donc, ça, c'est les caractéristiques de la tente de Sarah. Ce sont les caractéristiques de la tente de Sarah quand Sarah avait 127 ans, à la fin de la vie de Sarah. Peut-être ça a commencé plus tôt. Mais en tout cas, ce qu'on en sait, c'est ce qui se passait à la fin de la vie de Sarah. Et arrive cette jeune Rivka, elle a peut-être 20 ans ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Et elle prend la suite de Sarah. Elle ne recommence pas comme Sarah. Elle prend la suite de Sarah. Elle continue. Donc, elle a toutes les qualités de Sarah. Donc, elle a toutes les qualités qui vont faire d'elle une patriarche, en fait. Et quand le Midrash dit Kevan shera ota shei osa remase imo, quand Yitzhak a vu que Rivka était capable de faire la même chose que ce que faisait sa mère, à ce moment-là, en plus, c'est pas seulement ça. Qu'est-ce qu'elle faisait? Le Midrash dit, Kotsa chalata betahara. Le Kotsa isata betahara. Alors, il y a encore quelque chose. Que quand elle prélevait la chala sur son pain, sur le pain, quand elle fabriquait sa pâte, elle le faisait toujours dans un état de pureté. C'était ce que faisait Sarah également. Donc, il a vu qu'elle avait quasiment toutes les qualités de Sarah. Miyad, immédiatement, Alors du coup, le verset, le Midrash ramène le premier verset avec lequel il a commencé. Immédiatement, va yavir à Yitzhak à Oela Sarah, Imo. Ça veut dire quoi? On a commencé, on a dit que c'est pas, il l'a installé dans la tente de sa mère, et puis après on lui dit il l'a amené dans la tente. Il l'avait déjà fait, non? Qu'est-ce qu'il veut le Midrash ici, à nous ramener à la fin le verset? Alors, vraiment que ça veut dire la chose suivante. Yitzhak, il a installé Rivka dans cette tente pour la tester, en fait. Alors, il l'a amené, mais il l'a amené sans que ça veuille dire qu'il avait décidé de l'épouser. Il va regarder exactement ce qu'elle est capable de faire. Et quand il a vu qu'elle était parfaitement capable de faire les choses, à ce moment-là, il l'a amené cette fois-ci dans l'attente de Sarah, sa mère, mais il l'a amenée pour que ça devienne sa tante à elle. Et c'est fini. Et maintenant, il va l'épouser. Il lui donne des kiddushin. On dit que Eliezer, il lui avait aussi déjà donné des kiddushin là-bas, mais comme Eliezer, c'est un évêque, il ne pouvait pas vraiment être shaliach pour donner des kiddushin. Donc, ce qu'il avait fait, c'est une espèce de réservation, mais pas des vrais kiddushin. Alors maintenant qu'on dit qu'il l'a prise, Kikar ish isha, ça veut dire qu'un homme donne des kiddushin à une femme, et ensuite il l'a épousée, donc ça s'appelle Nisuin, ils ont vécu ensemble, et après on nous dit qu'il l'a aimée aussi. Ça veut dire qu'il y a eu une relation très forte entre eux. La Torah juge nécessaire de nous le dire, en fait. Une fois qu'on nous parle de ça, on ne nous a pas parlé de ça sur le couple Abraham-Sarah. Cette histoire de la Tahara quand elle fabrique le pain, ça permet à, ça, quand Sarah le faisait, ça permettait à Abraham, et si elle le fait, ça va permettre à Yitzhak de manger ce qu'on appelle Chounin Betahara. C'est-à-dire, il mange des Chounin qui ne nécessitent pas qu'on soit dans un état de pureté, mais il y a des gens qui, par exemple, pendant Aseret Yemei Tshuva, etc., et on nous donne un exemple dans la Gemara, de quelqu'un qui mangeait toute l'année Cholin Betahara. C'est-à-dire, il était makpid de manger des Cholin, manger la nourriture ordinaire, comme si c'était quelque chose qui nécessitait un état de Tahara. Alors, il y a des niveaux. Le niveau de Tahara, ça peut être Trouma, ça peut être Kodashim, ça peut être encore plus Echatat éventuellement. Tout ça, c'est possible. Donc, elle crée des situations où on peut vivre au niveau le plus élevé, quoi. Et du coup, maintenant, il a pu se consoler, en fait, de la perte de sa mère, parce que la Kdusha que sa mère permettait, disons, dans sa maison, cette Kdusha-là, elle est de nouveau là, grâce à Rivka. Et maintenant, le Midrash dit une dernière chose. Amar Rav Yudan, si vous voulez, dans le texte de la Torah, on en a fini avec l'épisode mariage de Yitzhak et Rivka. Et le sujet suivant, immédiatement dans le texte, c'est le remariage d'Abraham. Alors Rav Yudan dit, « Limetra Torah, sheim yé l'adam banim gdolim, yé masyan trila, ve'achar kach nosé lo isha. » Il dit, le texte de la Torah nous enseigne quelque chose de l'ordre du DRRS, que quand un homme qui est devenu veuf a des enfants qui sont adultes, il doit d'abord les marier avant de se remarier lui. Et d'où est-ce qu'on le sait? Ben d'Abraham, justement. Et mi atalmad, mais Abraham batrila. D'abord, la Torah nous enseigne, Vaivia Yitzhak Aola Saraimo, ça veut dire, et ensuite il l'a épousé, il s'est marié. Vaiachar, et seulement après, va Yosef Abraham, Vaikach Isha Ushmaktura, Abraham a continué, il a pris épouse. Et le nom de cette épouse, c'était Ketura. Donc, l'organisation du texte, si vous voulez, dans la Torah, nous enseigne cela. Ça veut dire que c'est pas simplement, dit Rav Yudan, c'est pas simplement que ça s'est passé comme ça, mais c'est un enseignement. Ça a une valeur d'enseignement. Nous, on pourrait penser que bon, la Torah, elle nous raconte les choses comme elles se sont présentées. On pourrait dire, à partir du Midrash qu'on a vu, il y a quelque temps, on a vu que quand la Torah nous décrit la rencontre entre Yitzhak et Rivka. Juste avant la rencontre, on nous dit quelque chose sur Yitzhak. On nous dit qu'il était allé prier dans le champ. Et le verset d'avant, on nous dit qu'il était beau mivo, qu'il venait, on ne voit pas pourquoi on nous le raconte, mais il venait de Be'er la Chayroï. C'est-à-dire il était à Be'er la Chayroï, ensuite il est redescendu vers le sud, où il habitait, et c'est là-bas qu'a eu lieu la rencontre entre Yitzhak et Rivka. Et pourquoi est-ce qu'on nous raconte qu'il est allé à Be'er la Chayroï? On avait vu qu'il était allé pour chercher une femme pour Abraham. Donc, d'une certaine manière, la femme pour Abraham, elle était prête. Donc, Abraham aurait pu se marier avant le mariage de Yitzhak. Parce qu'Yitzhak lui avait déjà amené une femme qui pouvait, il suffisait qu'il l'épouse. Donc, il ne l'a pas épousée tout de suite. Il a attendu, on voit dans le texte, qu'il a attendu que Yitzhak soit marié, et ensuite seulement il l'a épousé. Donc c'est une vraie leçon de Derech Eretz, dit Rav Yonan. Yudan, il dit que voilà, c'est comme ça qu'on doit se conduire. On pourrait dire que c'est pas évident, dans la mesure où, par exemple, Avraham Avinu, a priori, il n'avait pas fait la mitzvah de Puria Verivia. Il n'a pas de fille. Donc il n'a pas encore fait la mitzvah de Puria Verivia. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a devant lui? Lui, il fait la mitzvah de Rabbi, c'est-à-dire se remarier pour avoir des enfants, éventuellement une fille, ou bien marier son fils. Donc on aurait pu penser, bon ben, ma mitzvah, elle passe avant la mitzvah de marier mon fils. Et non, le dernier règle, c'est qu'il faut d'abord marier son fils avant de se marier soi-même, de se remarier soi-même. Tout ça, c'est quand c'est possible, parce qu'imaginez que quelqu'un devienne veuf avec des enfants en bas âge qui ne peuvent pas se marier. Donc, on ne parle pas de ça, on parle d'enfants qui sont en âge d'être mariés. D'accord, donc, c'est sûr qu'il s'agit de ça d'abord. D'ailleurs, il le dit bien, c'est Banim Gdolim. Il a des enfants qui sont Gdolim. Donc, il peut les marier. Il faut les marier d'abord. Là aussi, ça peut être trop difficile. On a du mal à trouver un shidduch pour un enfant, peut-être trouver plus facilement un shidduch pour soi-même. En tout cas, il donne ça comme règle. Voilà. On a donc terminé cet épisode de la recherche d'une épouse et le fait de trouver une épouse pour Yitzhak Avinu, pour assurer la relève, en quelque sorte. Et on va nous parler maintenant on va reparler d'Abraham. Alors, il y a tout un chapitre sur ce sujet-là. J'ai pas l'intention de faire tout ce chapitre avec vous. D'abord parce que on va devoir s'interrompre un peu pour faire un peu de shiurim sur Pessah. C'est une première chose. Deuxièmement, je ne crois pas que je veuille enseigner tout dans le détail tout ce que dit ce Midrash sur cette partie-là. Il y a des éléments qui sont importants. Et on va